Cette Bible que je tiens dans ma main est un trésor. Amen. C'est un trésor. Elle est notre guide en tout ce qui concerne notre foi et notre vie. En Timothée 3, 16 à 17, il dit: toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme ou la femme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Alors, laissez Dieu vous parler ce matin par sa parole précieuse. Si vous avez vos Bibles, regardez avec moi dans le livre de Josué. Et dans l'Ancien Testament, c'est le cinquième livre de... non, sixième livre de Nouveau Testament, l'Ancien Testament. C'est Josué. Et nous sommes dans le chapitre 7. J'ai demandé à Florie, c'est un peu long, mais c'est important que nous avons cette histoire dans notre tête. Donc, j'ai demandé à Florie de lire pour nous.
Les Israélites commirent un acte d'infidélité au sujet des biens voués à la destruction. Achan, fils de Carmi, petit-fils de Zabdi et descendant de Zégrak, de la tribu de Juda, prit des biens ainsi consacrés et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les Israélites. De Jéricho, Josué envoya des hommes vers Aï, qui est situé près de Beth-Aven, à l'est de Bethel, et il leur dit: montez explorer le pays. Ces hommes montèrent explorer Aï. De retour vers Josué, ils lui dirent: il est inutile de faire monter tout le peuple à l'attaque. 2 000 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Aï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car eux sont en petit nombre. Ainsi, 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les habitants d'Aï. Les habitants d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple perdit courage, il se liquéfia. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Il était avec les anciens d'Israël et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit: ah, Seigneur Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple? Est-ce pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire mourir? Si seulement nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je maintenant qu'Israël a pris la fuite devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront. Ils nous encercleront et feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué: lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi prosterné? Israël a péché. Ils ont violé mon alliance, celle que je leur ai prescrite. Ils ont pris des biens voués à la destruction. Ils les ont volés et ont menti. Et ils les ont cachés parmi leurs affaires. Ainsi les Israélites ne veulent plus résister à leurs ennemis. Ils prendront la fuite devant eux, car ils sont sous une menace de destruction. Je ne serai plus avec vous si vous n'éliminez pas l'objet voué à la destruction du milieu de vous. Lève-toi, consacre le peuple. Tu ordonneras, consacrez-vous pour demain, car voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a un objet voué à la destruction au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras plus résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous l'ayez enlevé du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin par tribu, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera clan par clan, et le clan que désignera l'Éternel s'approchera famille par famille, puis la famille que désignera l'Éternel s'approchera homme par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris des biens voués à la destruction sera brûlé au feu, et lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir violé l'alliance de l'Éternel et commis un acte odieux en Israël. Josué se leva de bon matin, il fit approcher Israël par tribu, et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les clans de Juda, et le clan de Zérak fut désigné. Il fit approcher le clan de Zérak, famille par famille, et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la famille de Zabdi, homme par homme, et Akan, fils de Carmi, petit-fils de Zabdi, et descendant de Zérak, de la tribu de Juda, fut désigné. Josué dit à Akan: mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache pas. Akan répondit à Josué: il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de Shinéar, 200 pièces d'argent, et un lingot d'or de près de 600 grammes. J'en ai eu envie et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre, dans ma tente, et l'argent est dessous. Josué envoya des hommes qui coururent à la tente. Les objets étaient bien cachés dans la tente d'Akan, et l'argent était bien dessous. Ils les prirent dans la tente, les apportèrent à Josué et à tous les Israélites et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, et ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Ils les firent monter dans la vallée d'Akor. Josué dit, « Pourquoi as-tu causé notre malheur ? L'Éternel causera ton malheur aujourd'hui. » Et tout Israël lapida Akan. On les brûla au feu, on les lapida. Et on éleva sur Akan un grand tas de pierres qui subsiste encore aujourd'hui. L'Éternel renonça alors à son ardente colère. C'est à cause de cet événement qu'on a appelé jusqu'à aujourd'hui cet endroit la vallée d'Akor.
Okay. Merci, Florée. C'est un long passage. En fait, pour comprendre ce chapitre que nous venons de lire, il faut le voir en contraste avec ce qui s'est passé au chapitre 6. Donc, regardons les deux ensemble. Voilà, chapitre 6. Nous avons vu dans le dernier message au chapitre 6, c'est la conquête de Jéricho. La première bataille dans la conquête de Canaan. Et c'était la ville qui était stratégique. C'était la porte en Canaan. C'était, et nous voyons. Et en fait, nous avons vu dans le message que Dieu a donné à Josué, ce n'était pas un plan, une stratégie militaire. Il a dit juste marcher avec l'arche, avec les prêtres, avec avant-garde et arrière-garde, marcher autour de la ville chaque jour une fois et le septième jour, cette tour de la ville. Et nous avons vu, il devait avoir la foi en Dieu et obéir à tout ce que Dieu a demandé. Et finalement, le septième jour, après le septième tour, ils ont sonné les trompettes, ils ont crié et les murs sont tombés, ils ont pris la ville de Jéricho. Donc, mais il n'y a pas une stratégie, mais pourtant, dans le passage que nous venons de voir, il y avait une stratégie militaire. Dans le chapitre 6, il a peu d'avantages, vraiment. Sans avantage, on peut dire que militaire, la ville était fortifiée. C'est seulement par l'aide de Dieu qu'il pouvait prendre cette ville. Pourtant, dans le chapitre 7, nous voyons, ils ont envoyé quelques espions. Ils ont dit qu'en fait, c'est juste une petite ville, une petite commune. Nous n'avons pas besoin de tout le monde. Peut-être 2000 personnes, ça suffit. Mais peut-être, si on veut être sûr, on va envoyer 3000 soldats. Donc, vous voyez la différence. La différence, c'est aussi entre les deux chapitres, la victoire qu'ils ont eue au chapitre 6 et la défaite, l'échec que nous voyons au chapitre 7. Il y a un temps de célébration au chapitre 6. Il y a un temps de tristesse, de découragement, même de peur au chapitre 6. 7, pardon. Il y a un temps positif, chapitre 6, un temps négatif, chapitre 7. Nous avons l'exemple de Rahab au chapitre 6, un exemple d'obéissance et de foi, et nous avons l'exemple d'Akan, exemple de désobéissance, l'incrédulité. Donc nous voyons vraiment les différences entre ces deux chapitres. C'était vraiment important pour Israël et aussi pour toutes les personnes dans au peuple de Dieu qui ont lu ce livre après. C'était exprès pour mettre les deux choses côte à côte pour nous montrer quelque chose. Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux chapitres, entre la victoire et la défaite, entre la possession de la terre promise pour jouir de la promesse de Dieu? Et ou pas, qu'est-ce qui fait la différence? C'est seulement ça. Le péché. Le péché, c'est ça qui a fait la différence entre la victoire et l'échec, la défaite. Entre jouir de la promesse de Dieu, cette vie que Dieu veut Dieu a voulu donner à Israël, ou Dieu veut nous donner, ou pas, c'est le péché. Le message central du chapitre 7 est déclaré et résumé au verset 1. Donc, si vous avez vos Bibles, regardez encore avec moi, chapitre 7, le verset 1, je vais le lire. Tout le chapitre est résumé ici. Après, c'est une description, une explication de ce verset. Les Israélites commirent un acte d'infidélité au sujet des biens voués à la destruction. Achan, fils de Carmi, petit-fils de Zabdi et descendant de Zérach, de la tribu de Juda, prit des biens ainsi consacrés. Il a volé. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les Israélites. Voici la différence entre la victoire et l'échec. C'est le péché. En Josué chapitre 6, si vous voulez, vous pouvez regarder avec moi Josué dans le chapitre précédent, chapitre 6, verset 18-19. Nous voyons l'ordre que Dieu a donné à Israël. Il dit, « Seulement gardez-vous bien de toucher à ce qui sera voué à la destruction. En effet, si vous prenez de ce que vous aurez voué à la destruction, vous mettriez le camp d'Israël sous une menace de la destruction et vous causerez son malheur. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets en bronze et en fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. » C'était bien dit. Achan, comme tout le peuple d'Israël, a compris que tout le butin pris pendant la conquête de Jéricho a été dévoué à Dieu. Personne n'avait le droit de le prendre pour lui-même. Et Achan, il a compris aussi les conséquences graves s'il n'obéissait pas. La preuve qu'il a compris, la preuve est qu'Achan a compris cet ordre et le fait qu'il a caché ce qu'il a volé, le beau manteau, les pièces d'argent, lingots d'or dans sa tête. Attends. Toute la semaine, quand j'ai préparé, j'ai dit dans sa tête. J'ai dit non, je ne peux pas dire dans sa tête. Je dois dire tente. Il a caché ça dans sa tente. Donc il a compris. Il savait ce que Dieu a dit. Il savait ce qu'il a fait était mauvais. Il a caché ces choses. Toute l'histoire d'Achan au chapitre 7 est un avertissement de la gravité du péché. En étudiant ce chapitre, j'ai tiré 5 leçons. En fait, il y a plein de choses dans ce chapitre. Il mérite encore la méditation. Vous allez trouver d'autres choses que j'ai vues. Mais j'ai tiré 5 leçons au sujet du péché que je veux partager avec vous. D'abord, le péché ne peut pas être caché. On va les voir après. Le péché coûte plus cher que l'obéissance. Le péché n'est pas une affaire privée. Le péché sera jugé. Le péché doit être confessé et repenti. Ce matin, nous allons considérer les trois premières leçons. Parce que après, c'était vendredi, j'avais déjà 6 pages et j'ai continué et j'ai dit que ce n'est pas possible, je ne peux pas dire tout ce dimanche, donc j'ai coupé en deux. Donc je vais vous présenter les trois premières leçons aujourd'hui et la prochaine fois les deux autres. Donc prions le Seigneur avec moi. Seigneur Jésus, merci, tu es là, c'est toi qui es la parole vivante. Et Seigneur, nous prions que tu nous parles par cette parole écrite que tu nous as donnée. Parle-nous, instruis-nous, transforme-nous, Seigneur. Amen. Bon, le principe en général dans ce chapitre, parce que nous cherchons les principes pour nous aider à prendre en possession la vie promise en Jésus-Christ. Et chaque fois, nous sommes en train de chercher des principes qui peuvent nous aider. Ils ont pris la terre promise et maintenant, nous voulons prendre aussi pour nous en possession la vie promise qui est à nous en Jésus-Christ. La première chose que nous voyons, la première leçon, c'est le péché ne peut pas être caché. Achan a volé les choses interdites. C'est bien clair. Il a creusé un trou dans le sol de sa tente. Il les a cachés. Il pensait que personne ne le saurait. Il pensait qu'il pourrait cacher son péché. Mais c'est faux. C'est faux. D'abord, Dieu a tout vu. Du moment où il a convoité ces choses dans son corps jusqu'au moment où il les a enterrées sous sa tente, Dieu l'a vu. Dieu voit tout. Rien n'est caché de Dieu. En fait, c'était cette vérité, cette réalité que je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Jean-Paul Sartre. À un certain moment, en tant qu'enfant, il a fait une bêtise, il a fait un péché et il savait que Dieu l'a vu. C'est vu. Il s'est fâché contre Dieu à ce moment. Il a dit que moi, je ne crois plus en Dieu parce que ça fait partie de son parcours. Mais c'est vrai. Dieu nous voit. Il voit toutes choses. Les autres peut-être ne peuvent pas voir, mais ce n'est pas caché de Dieu. Donc Dieu l'a vu. Ensuite, pour Achan, pensant qu'il pourrait cacher son péché, c'est faux, parce que sa femme et ses enfants ont su ce qu'il a fait aussi. Ils ne pouvaient pas, ils habitaient tous ensemble dans sa tête. Tente. Aïe, 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 dans sa tente. Mais il a creusé là, ils ont vu ce qu'il a fait. Et Achan n'a pas pris en considération le danger pour sa famille, ce qu'il a fait. Et plus probable, et pire encore, il les a conduits dans son complot pécheur, parce qu'ils n'ont pas dit rien à Josué. Donc, Dieu a vu, sa famille a vu, ce n'était pas caché. Et finalement, tout le peuple d'Israël a vu. Nous lisons, si vous êtes maintenant dans le chapitre 7 encore, vous pouvez regarder au verset 22 et 23. Nous lisons que son péché a été dévoilé devant tout le peuple d'Israël. Il dit au verset 22, « Josué envoya des hommes qui coururent à la tente. » Les objets étaient bien cachés dans la tente d'Achan et l'argent était bien dessus. Ils les prirent dans la tente, les apportèrent à Josué et à tous les Israélites et les déposèrent devant l'Éternel. Ce qu'Achan pensait d'être un petit péché caché est devenu un grand péché connu par tous. Il y a une leçon, importante ici concernant le péché. Nous pensons que nous pouvons cacher notre péché. Nous pensons que nous pouvons cacher notre péché à notre conjoint, ou à nos enfants, à nos frères et sœurs, à l'Église, ou à Dieu. Mais c'est faux. Tôt ou tard, notre péché sera dévoilé. Jésus nous avertit de cela. En Luc chapitre 12, verset 2, qu'est-ce que Jésus a dit? Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Tu seras connu tôt ou tard. L'apôtre Paul, il dit aussi en Romains 2, 16, c'est ce qui paraît le jour où, il parle du jour du jugement, le jour de son retour, le retour de Jésus, ou conformément à l'évangile que je prêche, Dieu jugera par Jésus-Christ le comportement secret des hommes et des femmes. En Nombre, chapitre 32, verset 23, Moïse, il parle avec les tribus de Gad et Manassé. Si, Si vous vous souvenez de cette histoire, c'est les 12 tribus, ils étaient l'est du Jourdain. Et les tribus de Gad et Manassé, il y a demi tribu de Éphraïm peut-être, il y a deux tribus et demi. Ils ont dit, ah non, nous préférons la terre ici, est-ce que nous pouvons nous installer ici? Et Moïse a dit, oui, mais à la condition que vous faites une promesse d'accompagner, d'aider vos frères, les autres tribus pour prendre en possession la terre promise. Et il a dit ceci, il dit, il donne cet avertissement, si vous n'agissez pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel et sachez-le, votre péché vous atteindra. Tôt ou tard, ça va être dévoilé. Tôt ou tard, ça va être jugé. Alors, la question que je vous pose ce matin, caches-tu un péché dans ta vie? Ça, c'est la question. Est-ce que je cache quelque chose que vous ne pouvez pas voir? Est-ce que vous cachez quelque chose dans ta vie? Sache que tôt ou tard, il sera révélé, soit dans cette vie, soit dans le jugement à venir. Il vaudrait mieux le confesser à Dieu pour s'en débarrasser. Alors, je vous encourage, si ça c'est votre cas, trouve un frère, une sœur de confiance. Je ne dis pas que nous devons dire à toute l'Église tout ce que nous faisons, mais trouve un frère, une sœur de confiance pour le confesser ensemble et pour prier ensemble afin d'être libéré de ce fardeau. Il y a une deuxième leçon. Le péché coûte plus cher que l'obéissance. J'ai été marqué par une prédication de mon pasteur aux États-Unis où il disait un jour, un dimanche, que la désobéissance coûte 1000 fois plus cher que l'obéissance. C'était là depuis des années, ça fait plus de 30 ans maintenant. La désobéissance coûte 1000 fois plus cher que l'obéissance. Dans le verset 21 du chapitre 7, si vous êtes encore là, nous lisons qu'Acon a vu le magnifique manteau, et les pièces d'argent et les lingots d'or. Nous voyons que Acon les a convoités, puis il les a pris. Il a vu, ah, ça c'est vraiment beau. Je serais vraiment beau si je porte ce manteau-là. Il a vu, convoité, il l'a pris et il a tombé dans le péché. C'est le chemin du péché. C'est exactement la tentation d'Ève dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 6. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vu le fruit de l'arbre, la parole dit. Elle a convoité, elle a dit que ah, c'était beau, c'était bien, c'était... Elle a convoité, puis elle a pris. Et c'est le chemin, comme je disais, du péché. Jacques dit ceci, que personne, lorsque vous pouvez voir, que personne... Lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. Et le péché parvenu à son pleinement développement a pour fruit la mort. Le péché coûte plus cher que l'obéissance. Je pense à Acon encore. Combien beau et désireux était le manteau qu'il a vu. Il devait l'avoir. Mais à quoi bon, en fait, pour lui? À quoi bon? Il ne pouvait pas le porter après l'avoir. Il savait ce qu'il était. Il ne pouvait pas porter en Israël. Ce beau manteau a été enterré sur la terre, dans la terre, sous sa tente. Lui et sa famille ont été humiliés devant le peuple d'Israël. Et finalement, il est condamné à la mort. À quoi bon? Oui, c'était beau. Magnifique. C'était la fashion, comment dit-on, fashion? La mode de Babylone, ce manteau, mais il devait l'avoir, mais à quoi bon? Il ne pouvait pas porter. Il devait l'enterrer dans la terre. Le péché nous donne la fausse promesse de nous plaire. Mais à la fin du compte, il nous mène à la misère. Et c'est ça, travail dans la tête. Pas de tente, de tête. Prends comme exemple l'infidélité dans le mariage. Le mari voit une femme au travail. Waouh! Elle est belle. Elle porte des habits qui m'attirent. Le parfum qu'elle porte sent si bon. Elle est sympa. Elle ne me harcèle pas comme ma femme à la maison. Alors, le mari se laisse séduire. Et comme une voiture, il remplace sa femme comme un nouveau modèle. Et 3 ans après, plus tard, il voit que sa nouvelle femme ne porte pas toujours les habits attirant la maison ou le parfum qui sont si bons à la maison. Elle a le même comme tous les autres le matin ou je ne sais pas. Et comme son ancienne femme, sa nouvelle femme est irritée aussi par ses mauvaises habitudes. Donc, alors, elle est constamment après lui. Les choses n'ont pas changé. Le mari n'est plus content, lui. Mais encore pire, il laisse derrière lui son ancienne femme blessée, aigrie, et ses enfants confus et écrasés. En fait, le péché nous donne la fausse promesse de nous plaire, mais à la fin du compte, il ne mène qu'à la misère. Mon pasteur avait raison. Le péché coûte plus cher que l'obéissance. Gardez cette pensée dans vos têtes. Troisième leçon. Le péché n'est pas une affaire privée. Le péché n'est jamais une affaire privée. Notre péché affecte toujours les autres. Cette leçon est explicitement vue dans cette histoire. Peut-être qu'on pensait que voler quelques objets ne ferait aucune différence. Il y avait tellement de butin que personne ne remarquerait. Ah, c'est juste quelques... Mais regarde tout cela. Je peux prendre juste un petit peu pour moi. Peut-être il se disait que cela ne ferait de mal à personne. Mais c'est faux. À cause du péché d'Acan, Israël a perdu la bataille contre Haï. Une bataille qu'Israël devait gagner facilement. 36 hommes ont perdu leur vie parce qu'il a voulu prendre un petit peu pour lui. 36 hommes. Toutes les familles de ces hommes morts ont été attristées parce qu'Acan a voulu un beau manteau. Remarquez dans vos Bibles le verset 10 à 12. Ce qu'il est dit. Chapitre 7, versets 10 à 12. L'Éternel dit à Josué, « Lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi prosterné? Israël a péché, ils ont violé violer mon alliance, celle que je leur ai prescrite. Ils ont pris des biens voués à la destruction. Ils les ont volés et ont menti. Ils les ont cachés parmi leurs affaires. Ainsi, les Israélites ne peuvent plus résister à leurs ennemis. Ils prendront la fuite devant eux car ils sont sous une menace de destruction. Je ne serai plus avec vous si vous n'éliminez pas l'objet voué à la destruction du milieu de vous. En fait, toute la communauté d'Israël a été comprise dans le péché d'Achan. Le péché n'est jamais une affaire privée. Ce qui est plus difficile, c'est de voir comment son péché a dévasté sa famille. C'est triste que sa famille, qu'elle le veuille ou non, soit entraînée dans le péché et en subisse les conséquences d'Achan. Mes frères et mes sœurs, nous devons comprendre que le péché n'est jamais une affaire personnelle. Et ça, c'est ce que le monde nous dit. Ah, mais ça, c'est mon affaire. Si le président, s'il fait quelque chose, il a les copines, quoi, ça, c'est son affaire. Ou si, bon, tu ne peux pas me dire que je peux faire ce que je veux, mais il y a toujours les conséquences pour les autres, pour les autres. Le péché a toujours les répercussions collectives. Le plus grand exemple est le péché d'Adam et Ève. C'était juste une pomme. Juste une pomme. Sur l'arbre. Peut-être que c'était la plus jolie pomme qui a jamais poussé, je ne sais pas. Elle a vu, il a vu. C'était juste une pomme. Mais toute l'histoire de l'humanité a changé. Le péché n'est jamais une affaire privée. Les livres, les vies de combien de personnes dans cette salle ont été marquées d'une mauvaise manière par le péché de leurs parents. Et à tour de rôle, nos péchés affecteront nos enfants et d'autres personnes. Mais Dieu soit loué, grâce à Jésus, ce cycle peut être brisé. On va en parler plus peut-être la prochaine fois. Mais ce cycle peut être brisé grâce à Jésus-Christ. Parlons de l'Église. Ton comportement affecte tout le monde dans l'Église, dans cette Église. Si tu vis dans le péché, tu vas tacher le nom et le témoignage de cette église. Par exemple, si je me fâche au supermarché, quel genre de témoignage cela donnerait-il de notre église? Les gens vont se demander, est-ce ainsi que les membres de cette église se comportent? C'est normal? Donc ton comportement, si tu vis dans le péché, ça va tâcher le témoignage de cette église, il y a des répercussions collectives. Combien d'églises ont été détruites par la chute de leur pasteur? Combien d'églises ont été détruites par les mauvais témoignages des autres dans l'assemblée? Le péché n'est jamais juste une affaire privée. Il aura toujours des conséquences et des répercussions collectives sur ta famille, sur ton église, sur tes amis, sur la société. Au début de la conquête, Dieu a donné à Josué cette promesse. Je le lis, si vous voulez regarder, c'est en chapitre 1, verset 6, mais vous pouvez écouter. Dieu a donné cette promesse à Josué. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur ancêtre de leur donner. Seulement, c'est pour vous, cette terre promise. C'est pour vous. Mais seulement fortifie-toi et bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. Pour Josué et le peuple d'Israël, prendre possession de la terre promise dépendait de leur obéissance. Le péché était un danger qu'ils devaient fuir s'ils voulaient jouir de la promesse de Dieu. Et c'est pareil pour nous. Ce matin, nous avons tiré trois leçons concernant au sujet du péché. Le péché ne peut pas être caché. Cache tout. Quelque chose dans ta vie. Le péché coûte plus cher que l'obéissance. Et le péché n'est pas une affaire privée. Le principe général, ne pas garder le péché dans ta vie. Comme c'était le cas pour Achan. Y a-t-il un péché caché dans ta vie dont tu dois te débarrasser? Sache que Dieu le voit déjà et n'entend pas qu'il soit dévoilé avant d'agir comme l'a fait Achan. Donne le fardeau à Dieu pour vivre dans la paix et la liberté.